C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière.
Je m'associe à l'accueil de Wissam. On est très content de vous revoir pour les habitués, mais aussi pour ceux qui nous visitent. On est content que vous soyez là. Et on espère, quel que soit votre cheminement, peut-être vous êtes simplement là en tant que curieux, et on est très content que vous soyez venus, et on espère que cette rencontre contribuera à rendre plus clair le message de la Bible. Vous l'avez vu, elle est au cœur de cette rencontre, par la citation qu'on a lue tout à l'heure. On voit qu'on veut être à l'écoute de ce que Dieu a dit, et il y a cette conscience que c'est lui qui s'est abaissé vers nous, et non pas nous qui nous élevons vers Dieu par nos propres efforts. Dans ces derniers mois, on a été à l'écoute de différents passages. On était dans l'évangile de Jean, on a fait 1 et 2 Samuel, on était aussi dans Tite. Mais là, pendant l'été, on entre dans un autre rythme. Mathieu et moi, on va chacun choisir différents textes. Et pour ma part, on va être dans l'épître aux Colossiens. On ne va pas faire toute l'épître, mais on va prendre des morceaux choisis dans celle-ci et dans chaque chapitre, 4 chapitres. Et on a lu la première section ce soir. Peut-être deux mots sur le contexte de cette lettre aux Colossiens. Colosse, c'est une ville qui se situe, et vous le voyez sur la carte, dans la région de la Phrygie, en Turquie actuelle. L'église dans cette ville, elle n'a pas été fondée par l'apôtre Paul. On estime qu'elle a été fondée aux alentours de 52-53. Mais de toute évidence, c'est le fruit de son ministère, alors qu'il se trouvait pas très loin de là, à Éphèse. Il enseignait, on le voit dans le livre des Actes, jour après jour dans l'église de Tyrannus, l'école de Tyrannus. Et par son enseignement, l'évangile a rayonné dans toute la région. Et ça comprend Colosse. Mais ce n'est pas lui qui y est allé, c'est un certain Épaphras, un collaborateur de l'apôtre Paul, qui a très certainement été au démarrage de cette église. Après son temps en Éphèse, et vous avez le voyage qui est mis en évidence, l'apôtre Paul il a poursuivi en se rendant en Macédoine, en Grèce, et finalement de retour à Jérusalem, il est incarcéré. Il est accusé par ses compatriotes juifs de semer le trouble par son enseignement. Et à partir de là, eh bien, il va être en prison, en détention, et on va l'amener à Rome pour comparaître devant l'empereur. Dans l'attente de son procès, il va écrire à cette église de Colosse, on a lu un extrait, parce que lui-même se soucie de cette église, il pourrait se soucier de lui-même, il est en prison après tout, mais il a le souci de cette et d'autres églises. Épaphras est venu à Rome avec des nouvelles, certaines sont bonnes, d'autres sont plus décevantes ou inquiétantes. Et dans ce contexte, Colosse, on peut dire, en tout cas sur la base de ces versets, qu'il y a très certainement deux mots-clés, quelque chose qui était attirant pour les habitants de Colosse et même pour les chrétiens dans cette église, connaissance et puissance. Connaissance et puissance. On aura l'occasion d'en dire un peu plus au sujet du contexte dans deux dimanches. Mais pour l'instant, disons simplement que les chrétiens à Colosse étaient tentés par une vue déformée de la connaissance et de la puissance. Une des BD qui a marqué mon enfance, c'est Calvin et Hobbes. Je ne sais pas s'il y a des amateurs ici. Mais dans Calvin et Hobbes, ce que j'aimais particulièrement, c'était les rencontres entre Calvin et un certain mot, une brute épaisse qui n'arrêtait pas de le frapper à l'école en lui demandant ceci ou cela. J'ai un peu de soucis avec le... Excusez-moi. Sinon, il y a les feuilles qui vont voler dans tous les sens. Et on va simplement regarder deux de ces séquences où vous allez le voir, chacun d'entre eux fait recours à un élément pour se rassurer. Alors, dans le premier extrait, vous voyez Calvin. Alors, je n'ai malheureusement pas trouvé en français, donc c'est en anglais. Il y a Calvin qui dit, voilà, il y a Mo qui vient, la brute de l'école. Et puis Mo qui dit, ok, petit gars, donne-moi ta balle. Et lui, Calvin, il dit, mais bien sûr, Mo, elle est toute à toi. Et puis Calvin qui finit par dire, ne jamais se disputer avec un garçon de 6 ans qui se rase. Autrement dit, il y a des puissances trop fortes. Dans la deuxième mot qui arrive, et Calvin, ou plutôt Calvin qui se dirige vers Mo, et qui lui dit, je me posais une question. Est-ce que tes difficultés d'ajustement sur un plan social sont le produit de ta glande pituitaire déficiente ou hypophase? Sauf erreur. Même moi, j'ai dû chercher pour... Et on voit Mo qui est là, et après ça, quoi? Et Calvin qui dit, c'est pas super ça? Allez, on va tous applaudir, on va tous l'applaudir. Autrement dit, chacun a sa façon de prendre de haut l'autre, si c'est par la force pour l'un, si c'est par l'intelligence pour l'autre. Et si on est honnête, j'imagine que pas mal d'entre nous, un des réflexes qu'on a quand on rencontre quelqu'un, c'est de se faire ces petites évaluations, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas forcément dans le domaine de la connaissance ou de la force. C'est peut-être sur la base de biens, de richesses ou alors de beauté, de critères de beauté. Mais on peut assez facilement rencontrer quelqu'un et se dire, il n'a pas l'air si intelligent que ça. Je suis plus intelligent que lui. Ou alors, si notre domaine, c'est plutôt la force, les capacités, il n'a pas l'air très doué en sport, il a l'air assez maladroit de manière générale, non? Et ici, l'apôtre Paul ne veut pas les encourager à poursuivre ce genre de recherche de puissance et de connaissance qui finalement enfle d'orgueil. Il a bel et bien une puissance et une connaissance pour lesquelles il veut les encourager à poursuivre, mais il veut qu'ils aient une bonne compréhension de cette puissance, bonne compréhension de cette connaissance. Pas centré sur soi, pas dans un désir d'écraser l'autre, mais plutôt dans une autre direction. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre en réalisant la tentation pour eux. On verra que c'est aussi tentant pour nous de rechercher ces éléments. Et il le met par écrit dans une prière. Il n'est pas simplement à vouloir le dire, il est dans sa cellule en train de prier pour eux, il pense à eux. Et comme il le fait dans d'autres lettres, il met sa prière par écrit. Dans sa manière de rédiger, et avant qu'on se lance dans la prière, c'est intéressant de relever qu'il encadre sa prière de reconnaissance. Il y a de la reconnaissance au début et il y a de la reconnaissance à la fin. Au verset 3, et ce sera pas mal de suivre pendant qu'on va méditer ce texte. Au verset 3, il dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. » Au verset 12, il les invite, eux aussi, à rendre grâce au Père, qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Et cette invitation à la reconnaissance, on la trouvera tout au long de la lettre. Pourquoi ? Pourquoi la reconnaissance, elle est si importante? Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré à 15 ans d'intervalle. La première fois que je l'avais rencontré, il avait un problème de rein. Il devait faire des dialyses régulièrement. Et il disait souffrir de cette situation sur un plan médical. Et la deuxième fois que je l'ai rencontré, donc 15 ans plus tard, j'ai découvert que peu de temps avant notre première rencontre, il avait... reçu une greffe qui avait bien fonctionné. Et il m'a dit la chose suivante. C'est difficile à croire, peut-être, mais pas un seul jour ne s'écoule sans que je sois reconnaissant pour ce rein. Pas un jour ne s'écoule sans que je sois reconnaissant pour ce rein. Il y a une reconnaissance pour ce qui soutient sa vie. Et ici, c'est ce que l'apôtre Paul veut qu'il saisisse aussi. Il faut qu'il y ait cette reconnaissance pour une vie soutenue par l'œuvre de Jésus. Ça doit être une réalité pour laquelle doivent être reconnaissants. La prière, elle se divise assez naturellement en deux sujets, deux choses que Paul désire ardemment pour eux. Et pour nous les approprier, je les ai mis à la première personne du singulier. Je veux connaître ta volonté. Je veux pouvoir vivre de manière à te plaire. Le premier, c'est comme un moyen d'atteindre l'objectif, qui est le deuxième sujet de prière. Il va falloir connaître sa volonté pour vivre de manière à lui plaire. Et c'est cela le sens de cette prière. On commence avec le premier sujet. On le voit dans la deuxième partie du verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il veut qu'il désire et qu'il recherche cette connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance ici, on voit qu'elle est personnelle. Ce n'est pas des éléments factuels, simplement. C'est une relation personnelle, une connaissance différente des religions à mystère qui étaient courantes à Colosse, où là, c'est une initiation, des cercles dans lesquels on pouvait entrer, une connaissance qui était mystique, réservée à une élite. Ici, la connaissance dont l'apôtre Paul parle et veut que l'on recherche, c'est une connaissance personnelle d'un Dieu qui s'est révélé. Il ne s'agit pas de recevoir une connaissance comme une clé USB, un CD, mais bel et bien une connaissance comme on voudrait connaître quelqu'un qu'on aime, un époux, un parent, un ami. On voudra apprendre à connaître cette personne de cette connaissance-là. Et il est question ici de sagesse, d'intelligence, et dans lesquelles nous sommes appelés à grandir par le Saint-Esprit, parce qu'il est dans l'origine. Dans d'autres versions, c'est une entière sagesse et un parfait discernement plutôt qu'intelligence. Et là, peut-être, c'est utile de, si vous êtes chrétien ce soir et vous êtes croyant, peut-être que vous vous êtes posé plusieurs fois la question de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation? J'ai différentes pistes au niveau du travail ou différentes possibilités au niveau des études, ou je m'intéresse à une relation et j'aimerais connaître la volonté de Dieu. Et parfois on aspire à ces réponses sur un plan binaire, oui ou non, ou savoir oui ou non si on doit faire ça, oui ou non. Et dans les Écritures, il faut reconnaître qu'on n'a pas des réponses claires sur ces questions-là. Il y a bel et bien une volonté morale de Dieu qui nous est présentée, qui nous est donnée, qu'on peut résumer de la façon suivante. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et dans ce domaine-là, les choses sont claires. Mais il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser dans la manière de vivre où on n'a pas ces réponses toutes claires. Tel lieu de travail, tel déménagement à envisager ou ne pas envisager, telle relation. Il y a des domaines où les réponses auront besoin de sagesse et de discernement. Et c'est ce que l'apôtre Paul souhaite pour eux. Et on peut remarquer qu'il n'est pas dans le légalisme des faux enseignants qui, eux, voulaient réglementer tout ce qui existe. On voit au chapitre 2 une citation qu'il reprend, « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Autrement dit, on doit se préserver de toutes sortes de choses. On le voit à différents endroits dans la Bible. Cette volonté de Dieu, elle vient d'une compréhension renouvelée, d'une méditation de la Bible. C'est là qu'on comprend sa volonté. Prenez par exemple Romains 12, verset 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Autrement dit, en méditant la pensée de Dieu qu'il a révélée, on va rechercher cette sagesse, trouver en lui cette sagesse pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Il ne s'agit pas d'une petite voix intérieure qui nous dirait ce qu'il faut faire, mais plutôt d'un apprentissage qui consiste à connaître Dieu de mieux en mieux pour pouvoir vivre ce qu'il veut que nous vivions. Dans quelle mesure est-ce que les priorités que je recherche dans tel travail, elles sont conformes à ce que Dieu veut pour ma vie? Il n'y a pas un oui ou un non sur cette question-là, mais j'ai à me poser la question, dans quelle mesure est-ce que ça, mes aspirations à trouver tel travail, entrer dans telle situation, déménager dans tel autre pays ou autre, dans quelle mesure est-ce que cela correspond à ce que Dieu encourage, souhaite dans les Écritures? La sagesse dans la Bible, c'est la connaissance des voies de Dieu, une sorte de vision d'ensemble. Quant à l'intelligence, le discernement, c'est la juste appréciation des choses et des personnes. Et on trouve à la fois le plan général et détaillé, mais où Dieu veut précisément nous aider à grandir, non pas avec des interdits constants, mais bel et bien avec une sagesse qui grandit. Les deux combinés donnent quelque chose qui parle de l'ensemble et du détail, mais en nous permettant de grandir par l'esprit dans une meilleure compréhension. Il y a un mélange de liberté et en même temps de dépendance dans la manière de connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier sujet de prière que l'apôtre Paul a pour eux. Et on doit déjà là faire le contraste avec la connaissance qu'il recherchait, que les Colossiens avaient tendance à rechercher. Le but ici n'est pas de nous élever, de nous présenter comme des gens qui sont bien dans leur basket parce qu'ils sont suffisamment intelligents, qui n'ont pas de complexe, mais bel et bien des gens qui se savent dépendants de la sagesse de Dieu, des personnes qui veulent s'y conformer, vivre de manière à lui plaire. Et c'est ce qui caractérise le deuxième sujet de prière. Je veux pouvoir vivre de manière à te plaire. Il y a une petite expression qu'on utilise de temps à autre, c'est être fier comme un paon. Mais est-ce que les paons sont vraiment fiers? Vous avez déjà posé cette question? Moi, je ne sais pas, je ne suis jamais rentré dans la tête d'un paon. Mais au-delà de l'apparence de fierté, un paon qui se présente avec toutes ses plumes, qui se relève, ce n'est pas pour être simplement fier. Y a une première raison, semble-t-il, c'est que s'il y a un ennemi qui se présente, il veut pouvoir impressionner. Les plumes avec les poings sont comme des yeux, tout un ensemble d'yeux qui regardent la menace. Mais c'est avant tout, pourquoi ? Pour plaire. Pour plaire. On n'a pas vu de gars avec des plumes ce soir, mais ça viendra peut-être, hein, ça va peut-être à la mode. Les cris stridents, ils se trémoussent. Tout ça, c'est dans l'idée de plaire aux femelles. Et pour les humains, ça sera de bien s'habiller, de se parfumer. Vous y avez pensé, messieurs? J'espère. Mais dans un plan qui est différent et en même temps similaire, vis-à-vis de Dieu, il y a ce désir de plaire qui devrait nous animer. Dans la mesure où il y a un amour, il devrait y avoir un désir de plaire. Qu'est-ce qui va plaire à Dieu? De quelle manière est-ce qu'on va plaire à Dieu? Et on peut réaliser, en disant cela, le défi que cela représente. Comment plaire à un Dieu qui est infiniment juste et parfait, saint dans toute sa manière de voir, infiniment au-delà de tous nos critères de morale, de justice? Comment est-ce qu'on va lui plaire? Eh bien, la suite nous donne un éventail, un extrait d'une vie qui plaît à Dieu. On va en trouver quatre caractéristiques d'une vie qui plaît à Dieu. On va d'abord voir deux expressions parallèles au verset 10 qui nous disent qu'il y a à la fois le dit de se comporter d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tout point de vue. Deux expressions parallèles. Mais à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette vie qui plaît à Dieu? Eh bien, ces quatre caractéristiques, on va les énumérer brièvement. Et pour nous aider à les mémoriser, elles commencent toutes par un P. La première caractéristique, c'est « portant du fruit », au verset 10, toujours. « Que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. » Je devais juste m'arrêter à « que vous portiez du fruit ». L'image du fruit dit le désir d'avoir quelque chose qui ressort, qui est une évidence d'un enracinement, d'une vie qui plaît à Dieu. Si on vit de manière à plaire à Dieu, si on connaît Dieu de mieux en mieux, eh bien on aura envie de lui plaire et ce sera visible d'une manière ou d'une autre. Ça se reconnaîtra. Vous imaginez quelqu'un qui vous amène dans une maison secondaire en Normandie et fait visiter le verger et à un moment donné, elle vous dit « Ça, c'est un pommier remarquable. Il est formidable, ce pommier. » La seule chose, c'est qu'on n'a jamais vu de pomme. Vous auriez envie de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il a de remarquable, de formidable, ce pommier, alors ? Si on ne peut même pas retirer une pomme. » Un arbre qui veut être digne de ce nom-là, un arbre fruitier, il faudra qu'il porte du fruit. Tout comme un chrétien qui se dit chrétien, il va avoir du fruit qui va être porté. Que ce soit par les actes, par les paroles, l'amour sera démontré d'une manière ou d'une autre. L'accueil que les uns ou les autres, on se réserve ici. La compassion dans l'écoute de ce que l'autre nous dit. Le pardon lorsque quelqu'un nous a offensés. Tout cela va dire que nous sommes attachés à Dieu, que nous vivons de manière à lui plaire. Dans le prolongement, on trouve, toujours au verset 10, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Et là, j'ai mis « progressant dans la connaissance de Dieu ». Et là, on réalise qu'on a déjà parlé de la connaissance au départ. Il s'agissait de connaître la volonté de Dieu. Et on retrouve cette connaissance. Autrement dit, c'est comme si on entrait dans une spirale. On va toujours plus loin. C'est à la fois ce qui démarre, une vie qui plaît à Dieu, qui permet de vivre une vie qui plaît à Dieu, un point de départ, mais aussi un aboutissement. Dans cette spirale, le plus on voudra connaître Dieu, le plus on l'aimera aussi, le plus on l'aimera et le plus on voudra lui plaire. On en viendra ainsi à mieux le connaître, comme dans une relation, et à l'aimer davantage. Une spirale. Apprendre à connaître Dieu, ça va représenter un investissement. Et si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas indifférent à ce désir-là. On aspire, et la lecture de cet été aussi, c'est ce désir de mieux connaître Dieu, progressant dans sa connaissance. Le point suivant, c'est que si on a parlé de progression, de spirale, il faut une force. Moi, je ne suis pas très bon en physique, je n'ai jamais été bon en physique. Ça ne va pas commencer aujourd'hui. Mais une des choses qu'on sait quand même en physique, c'est que pour tout mouvement, il faut une force. Il faut quelque chose qui permette le déplacement. Et s'il y a cette progression et s'il y a cette spirale, la force, elle est décrite dans le verset 11. Et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Puisant dans sa force glorieuse. Ça, c'est la troisième caractéristique d'une vie qui plaît à Dieu. Devant un objectif aussi élevé que de plaire à Dieu, on pourrait se sentir désarmé, incapable de vivre de manière juste, si on est lucide déjà sur nos erreurs. Mais dans ce texte, il est dit qu'il nous fortifiera pour qu'on puisse justement vivre cette vie qui plaît à Dieu. Et là, c'est l'occasion, alors qu'on a lu ce verset, de réaliser quelque chose d'important par rapport à la vie chrétienne. Vous vous dites peut-être ce soir qu'une vie qui plaît à Dieu, elle sera caractérisée par l'absence de problèmes, par l'absence de difficultés, d'épreuves, une vie qui coule de source, un long fleuve tranquille. Pour vous, vous diriez, ben, si je plais à Dieu, c'est que ma vie, elle va rencontrer aucun problème. Mais ce n'est pas ce que ce verset-là nous dit, n'est-ce pas ? Une vie qui plaît à Dieu, elle est caractérisée par la persévérance et la patience. La persévérance est plutôt en lien avec les circonstances de la vie, des circonstances difficiles, des épreuves. Et l'idée là, c'est de refuser de céder au désespoir, à la peur. La patience, quant à elle s'exerce plutôt vis-à-vis des personnes. On réalise qu'on rencontre, qu'on côtoie des personnes avec qui on a de la peine. Eh bien, une vie qui plaît à Dieu, elle sera marquée par une patience vis-à-vis de ces personnes-là. Et par sa puissance, Dieu désire nous combler des deux, de persévérance, de patience, en puisant dans sa force. Et parce qu'il en est la source, on en sera reconnaissant. Parce que c'est sa puissance, on ne voudra pas écraser les autres. Et d'ailleurs, on réalisera que c'est pour mieux pouvoir vivre les pressions de l'extérieur et non pas pour écraser les autres, puisant dans sa force. La dernière caractéristique d'une vie qui plaît à Dieu et que l'on veut le rechercher, elle se trouve au verset 12. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. » Comme on l'a dit, la vie chrétienne n'est pas marquée par l'absence de problèmes, mais plutôt par une persévérance et une patience. Et une autre chose qui va marquer cette vie qui plaît à Dieu, c'est une reconnaissance. Si on a bien réalisé ce que Christ a fait pour nous et que Dieu est à l'œuvre pour nous donner cette persévérance et cette patience, il y aura, malgré les épreuves, malgré les difficultés, une reconnaissance permanente. Un signe que nous appartenons à Dieu et que nous vivons de manière à lui plaire. Il y a une petite allusion avec l'héritage à la part que chaque tribu en Israël allait obtenir dans le pays promis. Mais ce qui doit nous frapper ici, c'est que ce n'est pas un héritage qui est futur, mais quelque chose déjà accompli, rendu capable déjà au passé, déjà acquis en quelque sorte, dès aujourd'hui, à cause de ce que Jésus a fait. Et toute la suite du chapitre nous dira que Christ a bel et bien été celui qui l'a accompli. La quatrième caractéristique, donc, c'est une prière avec reconnaissance, dans la joie. Je vous invite, dans les jours qui viennent, et peut-être même en commençant par ce soir, à aspirer à cela. Je veux connaître ta volonté, je veux pouvoir vivre de manière à te plaire. Et cela signifiera porter du fruit, progresser dans ta connaissance, puisant dans ta force glorieuse et priant avec reconnaissance et dans la joie. Je vous invite justement à prier maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire notre désir de te connaître, toi le Dieu vivant et vrai qui s'est révélé. Accorde-nous de rechercher une connaissance non pas pour une satisfaction, un ego, mais bel et bien dans le cadre de cette relation que toi tu as inaugurée en Jésus. Et que cela soit pour te plaire à toi, pour vivre d'une manière digne de toi. Je te prie pour chacun d'entre nous ici que tu nous accordes, si nous sommes déjà à toi, de porter du fruit et toujours plus de fruits, de progresser dans ta connaissance, de vouloir te connaître davantage et de puiser dans ta force en vue d'une patience et d'une persévérance à toute épreuve. Et tu sais ce que les uns ou les autres ce soir traversent comme épreuve, et nous te prions que tu donnes à chacun de pouvoir vivre de ta force, dans la persévérance et la patience. Et accorde-nous cette bonne et saine reconnaissance avec joie tout au long de notre vie et dans toutes nos circonstances. Accorde-nous cette joie de la reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen.